Après Noël, donc, il y a l'épiphanie. Épiphanie, c'est bien connu, ça veut dire manifestation, apparition. Mais en lisant la Bible, je vois qu'il n'y a pas qu'une seule épiphanie. Jésus se manifeste à différentes personnes et de façon très différente. Il y a les mages avec leur histoire d'étoiles, les bergers avec l'ange qui sonne de la trompette, et il y a Siméon, ce vieillard, qui dit qu'il attendait Jésus depuis toujours afin qu'il soit la gloire d'Israël, son peuple. Et donc ça m'étonne de voir que finalement Jésus se manifeste de façon très différente à différentes personnes dans ses premiers temps. Or, comme moi, ce qui m'intéresse et me questionne, c'est de savoir de quelle manière Jésus peut se manifester dans ma vie et de quelle manière cette rencontre avec le Christ peut changer quelque chose. Je me suis dit qu'il était peut-être opportun d'essayer de comprendre quelle était la logique qu'il pouvait y avoir entre ces différentes épiphanies finalement très, très disparates. Ce qui m'apparaît, c'est qu'en fait, Jésus se manifeste à chacun de manière très différente et toujours en cohérence avec le système préalable de chacun. C'est-à-dire qu'il remplit d'espérance l'attente de chacun, quelle que soit leur attente, en quelque sorte. Donc les mages, ils étaient astrologues, ils attendaient la lumière. Eh bien très bien, c'est une étoile qui les amène à Jésus. Et l'astrologie des mages, qui pourtant est normalement une abomination pour l'Écriture, hein, la Bible condamne l'astrologie, eh bien là, l'astrologie, elle est accueillie avec une grande bienveillance, et c'est elle, finalement, accompagnée par cette étoile qu'ils arrivent jusqu'à Jésus. Les bergers, ils étaient, eux, dans une attente messianique. Ils attendaient un Messie, fils de David. Ils veillaient la nuit pour ça. Eh bien, très bien, on leur dit, le Messie vient d'arriver. Et puis les bergers, ce dont ils ont l'habitude, c'est qu'il y ait des anges, qu'il y ait des gloires, qu'il y ait des choses comme ça. Eh bien, il y a des tas d'anges et des tas de gloires qui se manifestent à eux. Siméon, le vieillard, attendait la gloire pour son peuple, et on lui dit, ben, c'est top, Jésus, il apporte la gloire pour ton peuple. Et donc, je me dis, finalement, Jésus là, apparaît de façon très différente à chacun, et à chaque fois en respectant, je dirais, la culture profonde de chacune des personnes à laquelle il apparaît. Mais cela dit, l'évangile n'est quand même pas, je dirais, le syncrétisme total où on dit finalement, croyez comme vous voulez, ça ne change rien. Ils ont tous ces gens ont, je crois, quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est deux choses. D'abord, qu'ils attendent quelque chose. Ils sont dans une attente, dans une espérance, dans un désir de quelque chose qui vient, il y a une sorte de soif de quelque chose. Et d'autre part, je crois que c'est la qualité essentielle de ces personnes qui sont vraiment remarquables, c'est qu'à la fois ils attendent, mais ils attendent avec une ouverture et un non-dogmatisme absolument stupéfiant. À la fois ils sont dans leur croyance, les mages sont astrologues, mais ils vont quand même discuter avec les prêtres de Jérusalem. Ce n'est pas tout à fait leur religion quand même. Hein. Donc ça, c'est formidable. Et finalement, ce n'est pas l'astrologie qui est mise en valeur pour dire que c'est ça qui leur aurait permis de trouver le Christ, mais leur astrologie leur a simplement permis de les mettre en mouvement. Ça, c'est bien connu. Vous savez que l'étoile n'a absolument rien indiqué aux mages, puisqu'ils arrivent par erreur à Jérusalem, donc ils sont tout à fait dans la mauvaise direction. Mais simplement, ça les a mis en mouvement. Ils se sont dit, il y a quelque chose à trouver. Et donc, ils avancent. Et après, ils vont finir par trouver quelque chose qui n'est pas tout à fait, peut-être, comme ils l'envisageaient. Et donc, ils ont tous une ouverture d'esprit qui leur permet d'être capables de s'adapter à une réponse qui n'est a priori pas celle qu'ils attendaient. Et donc je me dis, très simplement, que peut-être d'abord l'essentiel n'est pas la croyance, c'est-à-dire votre système religieux, en quoi vous croyez, si vous êtes protestant, catholique, si vous croyez dans la Trinité, si vous n'y croyez pas, si vous croyez dans les miracles, si vous n'y croyez pas, enfin, dans la Vierge Marie, ce que vous voulez, peu importe. Ce qui compte, c'est la dynamique dans laquelle notre foi se positionne. C'est-à-dire de ne pas se renfermer dans une sorte de foi dans laquelle je ne veux pas sortir, mais qu'au contraire, ma croyance de départ, ma culture, m'ouvre vers la volonté de découvrir et d'avancer. Pour pouvoir accueillir une réalité nouvelle et reconnaître dans quelque chose d'étrange et qui n'est pas a priori de ma propre culture, quelque chose qui est peut-être apte à répondre à mes questions les plus profondes. Après, je dirais que, avant l'ouverture, peut-être même que j'aurais dû commencer par là, mais l'essentiel, c'est d'avoir un désir de quelque chose, d'avoir une attente. Peut-être justement, et c'est pour ça que je n'ai pas commencé par là, il faut un désir et une attente, mais sans trop formaliser son mode de concrétisation. Il faut être disponible à ce qui nous est proposé. Parce que si on regarde bien, les mages comme les bergers auraient pu être déçus. Les mages viennent adorer le roi des Juifs et ils tombent dans une étable. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils imaginaient, je pense. Les bergers, c'est la même chose. Ils attendaient le Christ, le Messie, et on leur dit, eh ben voilà, on vous donne un bébé. Ça, c'est très inhabituel, hein. Dans la Bible, aucun enfant n'est désigné comme Messie. Le Messie, c'est un roi que l'on sacre Messie, donc Christ, par l'onction, pour dire que c'est quelqu'un d'important, que c'est un roi, un prophète. Mais on n'a pas de Messie que l'on sacre bébé, comme le Dalaï Lama que l'on prend au berceau, si vous voulez. Dans la tradition juive, ça n'est pas possible. Le Messie n'est pas un bébé. Mais eux, ben finalement, ils se disent, ben après tout, on me propose un bébé, ben écoutez, je vais prendre un bébé. Ça, c'est assez étonnant. Et donc, si on reprend, je dirais que j'essaye de trouver ce qu'il y a de commun entre tous ces personnages. Première chose, vous disais-je, avoir des vœux, des désirs et des souhaits. Et ça, c'est essentiel parce que je me suis longtemps battu contre les vœux du Nouvel An. En me disant, mais c'est ridicule tous ces vœux, mes meilleurs vœux, je vous souhaite bonne santé, bon machin, etc. Et bien finalement, avoir des vœux, avoir des souhaits, avoir une attente, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui met en mouvement. Et donc garder 365 jours par an, l'idée d'avoir des vœux et des choses qui vous mettent en mouvement. Et ça, c'est peut-être l'essentiel des béatitudes. Et même, vous savez, la version de Luc sur ce point plus intéressante que celle de Matthieu, parce que Matthieu dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice », Luc dit simplement « heureux ceux qui ont faim et soif ». Il ne dit pas de quoi, peu importe, vous avez faim et soif de quelque chose, alors c'est formidable, parce que votre vie peut avancer quelque part, vous êtes prêt à recevoir quelque chose, vous êtes en quête. « Heureux ceux qui sont pauvres », Matthieu rajoute en esprit, « peu importe, vous vous savez pauvre en quelque chose, vous avez un désir de quelque chose. » Et ça, c'est le moteur de la vie, de désirer quelque chose, d'avoir faim et soif de quelque chose, de se savoir pauvre, de pleurer quelque chose. C'est le paradoxe des béatitudes, mais c'est fondamental. Et après, la deuxième qualité, essentielle aussi, c'est d'être disponible pour découvrir que même si les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, néanmoins, il peut se trouver dans ce qui m'arrive une réponse positive à mon attente. À chaque fois, il y a, je vous l'ai dit, un décalage par rapport à l'attente de nos protagonistes. Les mages suivaient une étoile, dès qu'ils voient Jésus, l'étoile disparaît. Et ils rentrent par un autre chemin. Et donc, ils ont été transformés. Je ne dis pas que la religion, c'est de dire « faites des vœux et tous vos vœux seront comblés ». La foi n'est pas une baguette magique, mais il y a quelque chose qui, en même temps, nous transforme. Il y a un vœu au départ, et ensuite, Dieu va transformer ce vœu pour nous mettre sur un autre chemin. Les bergers attendaient un Messie. On ne leur donne aucun Messie, on leur donne un signe. Bon, ce n'est pas ce que j'attendais, mais on va faire avec. Et c'est formidable. Siméon disait « J'attends quelqu'un qui va donner la gloire de mon peuple ». Un bébé arrive, Siméon meurt. Il était très vieux. Aucune gloire. Il n'a rien vu du tout. Pourtant, il a compris qu'il pouvait être satisfait. Et je dirais que c'est ça le problème du peuple juif aujourd'hui par rapport au Christ qu'ils ne veulent pas reconnaître comme Messie. Si on demande aux Juifs aujourd'hui pourquoi ils considèrent que Jésus n'est pas le Messie, ils disent « Eh bien parce que quand le Messie va venir, il n'y aura plus de guerre et Jérusalem sera la capitale du monde ». Ils disent « Or, Jérusalem n'est même pas la capitale de la Palestine, enfin on a du mal, et quant à la paix sur la terre, il n'y en a pas, et donc Jésus n'est pas le Messie ». Eh bien, je dirais qu'ils sont trop fixés sur ce qu'ils attendent. Ils ont une idée tellement précise de ce que devrait faire le Messie qu'évidemment, ils ne trouveront jamais aucun Messie capable de faire ce qu'ils attendent. Comme celui qui dit « Je ne me marierai que lorsque j'aurai trouvé une femme ou un mari qui ait telle et telle qualité, spécificité, eh bien, vous ne vous marierez jamais. » Alors voilà, Jésus donc accomplit l'attente de chacun, mais d'une manière inattendue, différente, mais il l'accomplit quand même. Il est le Messie, mais pas comme on l'attendait. Il est roi, mais il est méprisé, humilié, sans pouvoir temporel et sans territoire. Il est la gloire du peuple, je le crois, mais une gloire telle que le peuple lui-même, qu'est le peuple juif, ne s'en glorifiera jamais. Alors voilà cet évangile qui est très contradictoire et qui est un, comme dit Paul dans la lettre aux Corinthiens, un scandale pour les juifs, une folie pour les grecs, parce que cet évangile est finalement très difficile à comprendre. Le Christ accueille les attentes, il accueille les espérances, les modes d'être, les pratiques, les fois, les religions de chacun. Et finalement, Jésus se montre comme accomplissant tout cela, sans nier ses attentes, ses espérances, sans les condamner, mais en les dépassant plus loin. Des Juifs attendaient que Jésus accomplisse la loi à la lettre. Jésus va dire « Aucun problème, la loi, je l'accomplis à la lettre !» Et il l'accomplit tellement à la lettre qu'il la transgresse. Paradoxe. D'autres disaient, c'est ce que dit Paul, les Juifs attendaient des miracles. Alors Jésus va donner un miracle, mais Paul dit bien que ça n'a convaincu personne, parce qu'en fait Jésus n'a même pas été capable de se sauver lui-même de la croix, ni de la mort physique. Et donc, ce n'est pas le Messie. Mais pourtant, être capable de reconnaître qu'il y a quand même un miracle d'une autre manière, c'est ce qui se passe après la mort du Christ. C'est la naissance de l'Église, et c'est vous qui êtes rassemblés ici, frères et sœurs, pour célébrer le Christ vivant. Donc il y a bien un miracle, mais ça n'est pas celui qu'ils attendaient. Et donc, autrement dit, Jésus ne demande pas aux mages de devenir juifs, il ne demande pas aux bergers d'arrêter de croire à ces sornettes populaires d'anges qui sonnent des trompettes. Il prend l'attente, il prend le mode de vie de chacun, il l'accepte, et il y répond d'une manière juste, mais un peu décalée. Il ne nie pas cette attente, mais il la déplace. Et je dirais que dans notre mode de vie, dans nos préoccupations, c'est là que Jésus se révèle. C'est là qu'il apporte quelque chose. C'est-à-dire, je crois que Jésus répond à tous nos désirs et toutes nos préoccupations, mais d'une manière décalée. C'est ce qu'on apprend aux enfants, dès qu'ils sont tout petits, sur la question de l'exaucement de la prière. En disant, je crois que Dieu exauce toujours nos prières, mais rarement de la manière avec laquelle nous le voudrions. C'est-à-dire qu'on expose un problème à Dieu et on lui donne la réponse. Et Dieu dit, moi, ton problème, je l'entends, je vais y répondre, mais probablement pas de la manière avec laquelle tu le proposes. Et donc, la disponibilité essentielle du chrétien, c'est cette ouverture à Dieu, d'être capable d'écouter quelle sera la réponse de Dieu. Et je suis convaincu que pour un christianisme moderne, nous ne devons pas prendre les exemples particuliers des mages, des bergers ou des autres comme des exemples à imiter, mais au contraire comme des preuves qu'il faut s'adapter et qu'il y a de la place dans l'Évangile pour plusieurs cultures et pour différentes origines. et d'autre part, que nous devons accepter les préoccupations des gens, écouter les aspirations des uns et des autres, même des revendications les plus désordonnées que nous pouvons avoir ici ou là, il y a là quelque chose d'important. Et il ne faut pas nier ces choses-là, mais il faut être capable de proposer une réponse à une question qui est de toute façon une vraie question et montrer qu'il y a peut-être une autre manière d'y répondre, peut-être un peu à côté, mais réelle. Et je me souviens une fois où, dans un débat, quelqu'un me disait « Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas toujours bon de donner à un mendiant qui réclame de l'argent ?» Puisqu'il y a écrit dans l'Évangile « Donne à qui te demande ». Et j'ai répondu à ce moment-là, inspiré, je ne sais pas si c'est par le diable ou l'esprit, vous jugerez, j'ai dit spontanément, « Écoutez, il est écrit « Donne à qui te demande », mais il n'est pas écrit « Donne ce qu'il te demande ». C'est-à-dire, quelqu'un vient vers toi pour te demander quelque chose, c'est qu'il y a une demande. Tu dois, si tu en as le temps, la disponibilité, répondre à cette demande. Mais peut-être pas de la manière, de ce qu'il demande, parce que peut-être que la meilleure réponse n'est pas celle qu'il envisage. Et donc je pense qu'aujourd'hui nous devons militer pour un christianisme non formaté, si vous voulez. Le Christ peut se manifester de beaucoup de manières différentes, suivant la personnalité de chacun, et même dans des voies qui pourraient paraître apparemment condamnables. Je parlais de l'astrologie des mages qui n'est pas condamnée, et de certains de mes paroissiens qui me disent venir au culte volontiers, mais qui croient dans la réincarnation et dans les âmes et le dialogue avec les morts, c'est pas mon truc. Mais écoutez, moi je ne suis pas là pour juger de la croyance des gens, j'ai une bonne nouvelle et je la prêche, et c'est tout. Donc il y a dans ces évangiles un exemple extraordinaire de tolérance. Christ peut se révéler comme ultime rationalité au rationnel. Le Christ peut se révéler comme une source infinie d'inspiration, d'esprit au charismatique. Le Christ peut se révéler comme un don magnifique de paix à celui qui est angoissé, un amour infini à celui qui se sent mal aimé, un pardon extraordinaire à celui qui se sent coupable, à celui qui accomplit la justice, à celui qui est sensible à l'injustice, etc. Le Christ répond à chacune de nos attentes. Et donc il faut voir quelle est notre espérance et notre attente. C'est pourquoi je vous disais, cette période des vœux n'est pas, à mon avis, mauvaise, au contraire, elle est très bonne. Et ensuite, sans nier nos désirs et tous ces vœux que vous faites, il faut les sublimer et rester dans la dynamique, c'est-à-dire être capable de voir comment le Christ peut y répondre. Alors qu'attendent les gens? Et qu'est-ce que vous entendez dans vos vœux? Vous en aurez encore quelques-uns. En général, ce que l'on attend, c'est la santé, l'argent, la longue vie, ne pas souffrir, avoir de l'amour, sortir de la crise, avoir un bon statut social et que les enfants aillent bien, réussir dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Voilà, je vous ai fait un résumé des vœux de bonne année. Vous aurez à peu près tout. Alors, bonne santé. Ça m'a évidemment souvent agacé. Pourtant, pourquoi pas? D'abord, Jésus a guéri tant qu'il a pu ceux qui étaient malades, physiquement même. Hein. Donc on ne va pas dire qu'être chrétien, ce n'est pas se préoccuper de sa santé. Jésus a vu des gens malades, il savait les guérir, il les a guéris. Donc c'est déjà pas mal. Mais il nous enseigne aussi que la vraie santé est intérieure et que la pire maladie, c'est la culpabilité. Pour ça que quand la première guérison de l'évangile de Marc, le paralytique, Jésus, avant même de le guérir physiquement, lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et donc il propose d'aller plus loin en disant « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme ». L'Évangile ne dit pas que la vie physique n'est rien, mais il n'apprend pas le détachement absolu, mais il dit que la vie physique n'est pas tout et qu'en tout cas, ça n'est pas le plus important. Et donc il faut hiérarchiser, si vous voulez. Le seul danger, ce serait d'en rester au niveau 1. Mais si on vous dit bonne santé, oui, oui, bonne santé, physique si possible, et morale certainement, et spirituelle évidemment. Après, si on vous dit votre vœu c'est de rester jeune, ben pourquoi pas, mais la réponse du Christ, c'est de dire, sachez accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Et quelles que soient vos rides, vos cheveux blancs, vos absences de cheveux, j'ai un peu les trois à la fois, eh bien, on peut garder une âme d'enfant pour accueillir le royaume de Dieu. De même pour l'argent, pourquoi pas, si vous voulez être riche, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais Jésus nous dit, amassez-vous des trésors, mais si possible, non pas sur terre où les voleurs vont vous dérober, mais dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent. Vous voulez avoir de bonnes vacances? Très bien, l'Évangile répond, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Que vous soyez au Baléares ou à Paris, vous pouvez avoir du repos en Christ. Vous désirez être dans un pays en paix? Pas de problème, c'est une bonne idée, mais en plus, que vous soyez dans un pays en paix ou pas, Jésus vous dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Et donc vous voyez que l'espérance du Christ n'est pas quelque chose qui doit nier nos propres désirs. Jésus n'est pas là pour nier le monde, mais pour accomplir, pour le transcender. Il n'est pas là pour que, c'est pourtant une expression utilisée parfois dans l'Évangile, mais il n'est pas là pour tuer le vieil homme qui est en nous, mais plutôt pour que ce vieil homme qui est en nous, il le prenne et il l'élève à Dieu. Et nos désirs, nos aspirations, nous n'avons pas à les nier ou à les refouler, mais nous devons construire dessus pour aller au-delà et pour aller plus loin. Si nous oublions ce que nous sommes, eh bien nous tombons dans le vide, il n'y a plus aucune dynamique. Si nous en restons à nos petits désirs matériels, nous n'irons pas très loin. Mais la nouvelle création naît sur l'ancienne. La Jérusalem céleste est construite sur l'ancienne Jérusalem. Et nous ne pouvons pas être sans dynamique. Et le Christ ne peut pas se manifester à nous si nous n'avons aucune aspiration. Nos aspirations, nos désirs, nos vœux sont des points d'accroche à partir desquels on peut être en quête de quelque chose. Et ce sont dans nos vœux que Jésus peut venir. Et c'est là qu'il saura ensuite, si nous sommes assez disponibles, nous amener là où il veut. Et donc je crois que les réponses du Christ à nos vœux et à nos souhaits sont les bonnes réponses. Si on n'a pas de vœux, il aura du mal à nous donner ses réponses. Et donc, frères et sœurs, faisons tous les vœux possibles et attendons d'entendre ce que Jésus nous donnera comme réponse, parce que c'est ça la bonne réponse. Amen.